Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Depuis la rentrée, le cours du pétrole brut a chuté d'un tiers et la récente réduction de la production annoncée par l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, pardon, n'a pour l'instant pas inversé la tendance. L'offre semble plus forte que la demande. Il y a donc cet aspect lié au marché, mais on peut aussi se demander si la fin de l'ère du pétrole ou le pic de production annoncé depuis plusieurs années sont bien réels. De nouveaux gisements sont découverts assez régulièrement et de nouvelles sources d'énergie, renouvelables notamment, sont de plus en plus utilisées et développées. Va-t-on vraiment manquer de pétrole? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir en studio avec nous. Philippe Sébi Lopez, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du cabinet Géopolia, spécialiste en géopolitique de l'énergie. Et par téléphone, Pierre Terzian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Pétrostratégie. Une question sur le marché d'abord. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette forte baisse des cours depuis trois mois, Philippe Sébi Lopez?
Alors, il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, les cours n'ont cessé de monter. Ce qui fait que les cours montants, la demande a été un petit peu freinée, surtout ces derniers temps, avec une flambée des cours, on est monté jusqu'à 85$, et donc les pays émergents, en tout cas certains pays émergents, ont commencé à réduire leur demande. Dans le même temps, il y avait les sanctions américaines contre l'Iran, contre les exportations de brut iranienne, qui faisaient craindre aux opérateurs du marché une raréfaction de l'offre, ce qui poussait les prix à la hausse. Bon, on s'aperçoit que les sanctions, finalement, les Américains ont mis un peu d'eau dans leur vin en disant, bon, il y aura une dérogation pendant ces 80 jours. Donc, le pétrole iranien ne disparaît pas des marchés, d'ailleurs, personne s'y attendait, mais bon, il reste présent sur le marché, en partie, même si c'est moins qu'avant. Les cours ont baissé, donc la demande repart, mais en même temps, les pays de l'OPEP, notamment l'Arabie Saoudite, avaient produit au maximum. La Russie produisait au maximum. Les États-Unis continuent de produire fortement, même s'ils ont des problèmes pour exporter, pour des questions logistiques. Bref, il y a une offre qui est beaucoup plus importante que celle qui était attendue par les marchés. Du coup, les prix redescendent et normalement, ça devrait continuer à soutenir la demande. Après, la question qui se pose, c'est l'application des sanctions de l'OPEP, enfin de la réduction du quota de production de l'OPEP, qui, elle, sera effective en janvier. Donc, pour l'instant, on est entre deux eaux. Même si on se doute que l'offre pétrolière mondiale correspond très largement à la demande pour l'instant.
Pierre Terzian, je fais un petit focus sur les sanctions américaines contre l'Iran. Apparemment, d'après ce que disait Philippe Sébi Lopez, elles sont moins sévères que prévues.
Absolument. Il y a la part de la rhétorique dans le discours américain et la part de la réalité. Alors, la rhétorique est très tonitruante, très guerrière. On annonçait des sanctions très sévères contre l'Iran, dont la production devait tomber à zéro, enfin les exportations plutôt. Eh bien, à la grande surprise de tout le monde, à commencer par les Saoudiens, qui attendaient ces sanctions comme du pain béni, puisqu'ils en veulent à l'Iran, la veille de l'application des sanctions, le 4 novembre donc, les États-Unis ont annoncé des dérogations au profit de 8 pays autorisés à importer du pétrole iranien sans être assujettis aux sanctions. Eh bien, c'était vraiment la surprise, ce qui veut dire que l'application des sanctions n'est pas aussi rigoureuse qu'on pensait ou que les Américains le laissaient prévoir. Et aujourd'hui, on a la preuve que en novembre, la production de l'Iran n'a baissé que de 10%, c'est-à-dire qu'elle est tombée de 3,3 millions de barils par jour à 3 millions seulement. Eh bien, ça a contribué également au fait que l'offre est abondante sur le marché et que les prix sont à la baisse.
Alors, l'OPEP, vous en parliez, Philippe Sébi Lopez, l'OPEP n'est plus un monopole ou un oligopole aussi puissant. Est-ce que ça représente une partie moindre de la production qu'autrefois? Est-ce que donc l'OPEP est moins influente qu'autrefois?
Alors, en termes de production, l'OPEP, c'est à peu près toujours la même chose. Ça oscille entre 30 et 40% de la production mondiale. Là, si on compte le pétrole brut, ils sont à 32,5 millions de barils jour de pétrole brut, mais il faut rajouter les liquides de gaz naturel, les condensats, et avec ça, ils arrivent pratiquement à 39 millions de barils jour. Donc c'est toujours 40% de la consommation, enfin de la production, et donc de la consommation mondiale actuelle. Pour l'OPEP, la question se pose plus dans les rapports entre les pays membres. C'est-à-dire, vous avez des pays qui ont une production qui baisse, d'autres qui peuvent pas l'augmenter. Ils sont au maximum, et les seules capacités d'ajustement, au fond, c'est l'Arabie Saoudite. Vous avez quelques pays, bon, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, éventuellement le Koweït, qui peuvent ajouter un peu de production. Donc les seules variables d'ajustement, au fond, elles sont concentrées sur trois pays. Alors que par de l'autre côté, en termes de production, bah, la Libye, ça oscille, au gré de la situation sécuritaire dans le pays. Là, il y a 400 000 barils le jour, il y a deux jours, qui ont disparu du marché parce qu'il y a un problème avec une milice dans une zone de production. Donc c'est une production erratique, c'est pas régulier. Ce qui fait qu'évidemment, pour l'OPEP, en tant qu'acteur, c'est l'Arabie Saoudite qui, aujourd'hui, donne le là, parce que c'est les seuls qui ont des capacités additionnelles de production qui peuvent jouer donc sur les cours et sur les prix. Et donc c'est eux qui doivent faire l'essentiel de la réduction de l'OPEP, parce que les autres sont soit produits au taquet, soit produits en dessous de leur quota.
En préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'on se posait carrément des questions sur l'existence de l'OPEP, sur la continuité de cette organisation, parce que vous le disiez, Philippe Sébilly-Lopez, eh bien, il y a des capacités et des intérêts peut-être divergents. Pierre Terzian, c'est une possibilité réelle, ça, que l'OPEP éclate ?
L'OPEP est très affaiblie, d'une part parce que la production de pétrole augmente en dehors de la zone OPEP, en particulier aux États-Unis, mais également dans d'autres pays comme le Canada, le Kazakhstan, etc. Donc l'OPEP est affaiblie, c'est un fait. En Russie, la production augmente également. Et la deuxième raison, c'est que les pays de l'OPEP, à commencer par l'Arabie Saoudite, n'ont rien pu faire pour réduire leur dépendance à l'égard des revenus du pétrole. Donc d'un côté, ils ont moins d'influence sur le marché, même s'ils gardent encore une influence, bien entendu. Mais de l'autre, ils sont dépendants de ce marché, dépendants de ce pétrole. Et donc ils n'ont plus la marge de manœuvre dont ils disposaient avant. Et on a une organisation affaiblie, et la preuve nous a été donnée par le Qatar ces derniers jours, qui a annoncé que, à compter du 1er janvier 2019, il se retirait de l'organisation. Bien sûr, derrière cette décision du Qatar,
il y a les relations avec l'Arabie Saoudite, bien sûr.
Absolument, il y a des facteurs politiques, mais le Qatar, raisonnablement, rationnellement, du point de vue de la rationalité économique, n'a aucun intérêt à se retirer de l'OPEP, parce que le gaz qu'il vend, le prix de ce gaz est indexé sur le prix du pétrole en majorité, et donc il a intérêt à rester au sein de l'OPEP et veiller au renforcement de l'OPEP et à la sauvegarde des prix. Mais le Qatar a jugé qu'aujourd'hui tout ça s'était passé, et il a donné la préférence à ses considérations politiques, c'est-à-dire la crise avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, et le Qatar tire sa révérence. L'OPEP est en phase d'affaiblissement, effectivement.
Philippe Sébilly-Lopez, est-ce que vous diriez, d'une manière générale, si on sort des considérations de marché, même si c'est très difficile, est-ce que vous diriez que l'offre de pétrole brut excède la demande de manière structurelle, ou c'est juste transitoire ?
C'est transitoire. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On sait que les Américains vont mettre sur le marché l'année prochaine, parce qu'ils vont enfin parvenir à les exporter avec la mise en service de nouveaux oléoducs, une production qui est bloquée pour l'instant au niveau du Permian, donc au Texas. C'est peut-être 2 millions de barils jour sur l'année qui vont arriver sur le marché. Quelle sera la hausse de la demande l'année prochaine en fonction de l'évolution de la croissance économique globale suite aux brouilles, ou en tout cas au bras de fer entre les Américains et les Chinois, qui conditionnent une bonne partie du commerce mondial? Donc quelle va être la hausse de la demande l'année prochaine? En général, en temps normal, d'année en année, vous avez une augmentation de la demande de 1,2 million de barils jour. Là, avec
c'est exactement la quantité de réduction qui a été annoncée par l'OPEP il y a quelques jours.
Oui, mais il n'y a pas nécessairement de concomitance dans les deux phénomènes. Là, il faut enlever du marché 1,2 pour redresser les cours à court terme, disons pour le début de l'année prochaine. Maintenant, je vous dis, ce qui va arriver dans les mois suivants, c'est une production américaine, des exportations renforcées au niveau des États-Unis. Donc, quelle va être la hausse de la demande mondiale pour absorber ces nouvelles productions américaines, par exemple ? indépendamment de ce que va faire l'OPEP en termes de réduction.
Est-ce qu'on découvre, et là je passe à un autre chapitre, plus dans la prospection, est-ce qu'on découvre de nouveaux gisements, de nouvelles réserves, par exemple il y a quelques années au large de la Guyane française, est-ce que ça ce sont des découvertes qui sont régulières et qui viennent augmenter les réserves, Pierre Terzian?
Oui, on découvre de nouveaux gisements et des gisements très importants. Vous avez parlé de la Guyana, effectivement, où on en a trouvé plusieurs milliards de barils de pétrole. Mais ce qu'on trouve surtout, c'est la manière de produire des pétroles dont on connaissait déjà l'existence, mais on n'avait pas la technologie pour les produire. Donc l'augmentation des réserves auxquelles on assiste depuis une dizaine d'années provient essentiellement du progrès technique. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui capable de produire du sable bitumineux, du pétrole à partir du sable bitumineux de l'Alberta du Canada. On est capable de produire ce qu'on appelle l'huile des schistes aux États-Unis. Donc les ressources existaient, on les connaissait, on n'avait pas la technologie pour les produire. Aujourd'hui, on les a. Et de ce fait, ce qui constituait des ressources latentes, sont transformés en réserves, c'est-à-dire du pétrole que l'on peut produire aux conditions économiques et techniques du moment. Alors, l'essentiel de l'augmentation des réserves vient du progrès technique.
Philippe Sébille-Lopez, je vous vois réagir en studio, vous voulez
rebondir là-dessus ? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que là on parle de pétrole non conventionnel. Mais ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que en termes de pétrole conventionnel, là, les réserves, les découvertes, depuis des années, parce que les compagnies, justement, avec la baisse des prix, hein, parce qu'on l'oublie, mais 2015, 2016, c'est la baisse des prix. Donc les compagnies n'investissent plus, surtout dans l'exploration, donc il n'y a plus de nouvelles découvertes. On réévalue des réserves qu'on connaissait. On a effectivement ces pétroles non conventionnels qui arrivent sur le marché. Mais en termes de découvertes et de pétrole conventionnel, on est depuis des années avec des niveaux de nouvelles découvertes très faibles.
D'accord. Et ces gisements, ça dépend de la façon dont ils sont exploitables. C'est-à-dire que bon, il y a le progrès technique sur les gaz de schiste, les huiles de schiste. Est-ce que ces gisements, je reprends, pardon, mon exemple de la Guyane française, est-ce que c'est facile d'aller chercher ce pétrole-là, ou est-ce que ça vaut la peine avec les prix actuels?
Alors, c'est toute la question pour les pétroles de schiste américains. Mmh. Ils sont très sensibles au cours du baril parce que ils coûtent plus cher à produire que le pétrole conventionnel. Quand on parle de pétrole offshore, bon, comme en Guyane par exemple, ou au Guyana plus exactement, parce que là il y a vraiment des découvertes importantes qui ont été faites par Exxon notamment. Bon, pour l'instant on est dans la prospective pour la Guyane française, bon c'est autre chose. Donc ces pétroles non conventionnels ont besoin d'un prix minimum, on va dire autour de $50. Et malgré les progrès techniques, malgré l'optimisation des coûts de production côté américain au niveau des pétroles de schiste, un pétrole durablement comme aujourd'hui par exemple le WTI américain qui est $10 inférieur au Brent de la mer du Nord, c'est $52 aujourd'hui. $52 la marge pour les pays, les pure players, c'est-à-dire ceux qui sont, ils ne font que du pétrole de schiste, ils ont des problèmes parce qu'en plus les coûts, il y a un problème de main d'œuvre, il y a un problème de coûts logistiques qui sont très importants, et on peut comprimer les coûts de forage, mais après toute la séquence production, là les coûts sont plutôt à la hausse, précisément parce que il faut beaucoup de main d'œuvre et que la main d'œuvre n'est pas toujours là.
La production de pétrole est donc en train de changer, d'évoluer, mais qu'en est-il des usages? Est-ce que l'aspect énergétique est toujours aussi important, ou est-ce que on a un peu plus de place pour le pétrole comme matière première en pétrochimie, Pierre Terzian?
La majorité de la consommation pétrolière se fait dans les transports, bien sûr, transports routiers, aériens, maritimes, et puis le reste c'est dans la pétrochimie, c'est essentiellement ces deux pôles. Tel que on voit les choses progresser, la part du transport va diminuer puisqu'on est en train d'aller vers des carburants alternatifs. En revanche, la part de pétrochimie va continuer d'augmenter. Et on revient à un débat qui avait lieu dans les années 70, où l'on parlait de l'usage noble du pétrole, c'est-à-dire pétrochimie, et on trouvait qu'il était stupide de brûler le pétrole, qui est un produit très riche, produit par la nature, dans les moteurs des avions ou des voitures. Eh bien, je crois que dans les décennies à venir, c'est vers cela qu'on va s'orienter, petit à petit, la part du secteur des transports va diminuer dans la consommation pétrolière et celle de la pétrochimie va augmenter.
La pétrochimie, Philippe Sébille-Lopez, c'est quels usages? C'est la production de plastique, de produits chimiques, de...
Toutes sortes de plastiques. Oui. Alors ça va dans le textile, dans les lubrifiants, la cire. Enfin, il y a un usage en pétrochimie. Rares sont les produits au fond qui n'ont pas une composante pétrolière, jusque dans les produits de beauté. Enfin, ça va très loin.
C'est le sang de l'économie, on va dire ça comme ça. C'est à peu près
donc,
ça.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre Terzian, c'est que dans l'avenir, une part de plus en plus importante de la production pétrolière mondiale sera consacrée à la pétrochimie.
La question, l'expression qu'on employait il y a quelque temps, c'était le peak oil, le pic de production. Est-ce que c'est une idée qui existe toujours, Philippe Sébille-Lopez?
Alors, il a un peu, enfin, les données ont un peu changé avec précisément l'arrivée de ces pétroles de schiste qu'on considérait comme non viables économiquement, qui restent bon un petit peu questionnables hein, en termes de viabilité par rapport au prix. Hein. Si on est prêt à payer 70-80 dollars le baril, il y a un bel avenir pour ces pétroles de schiste américains. Par contre, si pendant une période assez longue les courses baissaient fortement et retombaient dans les 40-50 dollars. Il y aura un problème d'ajustement, même si ces pétroles de schiste, parce que les Américains ont monté un système, au fond, ils font des forages où là, ils ont obtenu des gains de productivité, réduction de coûts, donc on va dire, et du coup, ils ne complètent pas la suite du processus, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas l'étape suivante qui prépare à la mise en production. Et donc, ils forent là où il y a un acquis sur en termes de réduction de coûts. Et par contre, ils attendent que les cours remontent pour lancer le développement et la mise en production.
Cette idée de peak oil, Pierre Terzian, même si elle est donc discutée aujourd'hui, si on revient un peu dessus, est-ce qu'elle a contribué à changer les usages et au développement des énergies renouvelables, par exemple?
Oui, absolument. Cette théorie du peak oil avait un défaut majeur à l'origine. Elle ne tenait pas compte de l'évolution technique. Et cette évolution technique nous a conduit justement à l'augmentation phénoménale des réserves grâce au schiste, grâce au sable et ainsi de suite, ce qui fait que cette théorie s'est révélée fausse. Et d'ailleurs, il y avait peu de personnes qui y croyaient, mais beaucoup de personnes en parlaient. Alors, l'aspect positif, si vous voulez, de cette grosse bêtise, c'est que les gens se sont dit, tiens, il faut qu'on accélère l'après-pétrole, qu'on se prépare, et ça a contribué effectivement à un sursaut pour que l'on imagine des sources alternatives au pétrole. Et de ce point de vue, ça a été positif.
Est-ce qu'on va manquer de pétrole ou pas? Je vous pose la question du jour, Philippe Sébille-Lopez.
C'est toujours la même question. À quel prix? Si on est prêt à payer, on n'en manquera pas. Si les prix sont bas, on risque d'en manquer. C'est le paradoxe.
Si on ne manque pas de pétrole, c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour le climat, alors que la COP24 s'achève demain en Pologne. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Terzian?
Écoutez, quand on parle climat, il faut surtout savoir une chose, c'est qu'il y a urgence. Cela veut dire qu'il faut aborder le problème là où les effets peuvent être les plus rapidement sensibles, ce qui veut dire s'attaquer au charbon sans tarder. On a beau faire des efforts sur les autres domaines, mais si on n'arrête pas l'augmentation de l'usage du charbon, si on ne ferme pas les centrales au charbon, il n'y a aucun espoir de sauver la planète. Mmh. Or, je vois que malgré tout, de ce point de vue, les efforts ne sont pas suffisants. Même en Europe, nous construisons des centrales à charbon. Je ne parle pas de l'Inde, de la Chine, où il y a énormément de centrales qui se construisent. Eh bien, tant qu'on n'aura pas pris ce problème par ce bord-là, c'est-à-dire commencer par le charbon,
merci.
Parce que c'est là qu'on obtiendra.
Merci Pierre Terzian, merci à vous également Philippe Sébille-Lopez d'avoir participé à cette émission qui est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage, Charles Barré, Valentin Vaner et Benjamin Reyes. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.